Jean-Claude Castel est notre invité.
Bonjour Jean-Claude Castel.
Bonjour, bonjour à tous.
On est ravis de vous accueillir parce que tout d'abord, vous êtes le maire de Corbières, vous êtes également conseiller départemental depuis 2 ans. Vous êtes aussi, on en parlera dans un instant, candidat pour les élections législatives sur la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Mais vous êtes surtout un élu plutôt atypique, que ce soit la longueur de vos cheveux et la verve qui vous anime, mais aussi la défense de votre territoire, vous avez un sacré caractère.
Disons que j'ai du caractère. J'ai la chance d'être libre, idéologiquement, financièrement, grâce à mon travail. Donc je peux me permettre de dire à peu près ce que je veux quand j'ai envie de le dire.
Et on va voir ça dans les 15 minutes qui vont suivre. Ouais. Vous êtes, on va le rappeler, viticulteur à Corbières. Mmh. Corbières, un village qui se développe particulièrement bien. C'est le village qui est à l'extrémité des Alpes de Haute-Provence, vers les Bouches-du-Rhône, à la fin de ce joli département. Et vous le disiez tout à l'heure hors antenne, un village qui en 2008 comptait 800 habitants et maintenant 1300. Vous avez une recette particulière pour repeupler votre village, Jean-Claude Castel ?
Personnellement, j'y suis pas pour grand-chose. Je veux pas d'ennui dans les chaumières, mais je pense que on fait tout ce qu'on peut pour que les gens se sentent bien quand ils arrivent chez nous. Ah, ça, c'est l'action politique, on va dire. Vous savez que je suis entrepreneur, donc j'ai une sensibilité, une affection particulière pour les entrepreneurs, pour les créateurs d'entreprises. Donc, il y en a un certain nombre qui se sont installés chez nous ces dernières années. Donc, ils ont eu besoin de personnel, donc ça a attiré du monde. Puis après, il faut dire aussi que notre positionnement géographique est plutôt bon, puisqu'il n'est pas très loin d'Aix-en-Provence et de Marseille. On est juste en face Cadarache et Itter. Ma commune touche 3 départements, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône à Saint-Paul-des-Durances, là-bas. Donc on est dans un positionnement assez ouvert, pas loin de Manosque, mais quand même tranquille. Il nous manque qu'une sortie d'autoroute.
Oui, et ça c'est un rêve depuis déjà pas mal d'années qui risque de se réaliser, peut-être, on va voir ça dans les années prochaines. Vous l'avez dit aussi, vous avez cité Manosque, ça fait partie du pays manosquin, Corbières. Vous êtes aussi vice-président de l'agglomération manosquine, Durance-Luberon-Verdon agglomération. Vous sentez bien dans cette EPCI, dans cette intercommunalité ?
Mais je m'y sens bien, on est obligé... par des lois, par la loi NOTRe notamment, de regrouper les communes au sein d'établissements publics de coopération intercommunale, la DLVA année 1, oui. Bien sûr, il y a des problèmes. Il faut faire entendre...
Quel type de problème ?
En créant une communauté d'agglos ou une communauté de communes ou une communauté urbaine, appelez-la comme vous voulez, forcément, on enlève des compétences aux communes. Donc on a une coquille qu'on vide peu à peu pour transférer les compétences ailleurs. Ça veut dire que quelque part, on prive un peu le peuple de démocratie, puisque ce sont plus les élus qui ont été élus aux élections municipales qui dirigent, mais c'est ceux qui ont été désignés entre nous pour diriger l'agglo qui dirige.
Je vais faire une parenthèse sur ce que vous dites avec hier un vote lors de la réunion de DLVA et qui rejette le fait que tout ce qui concerne l'urbanisme soit donné non plus aux communes mais aux intercommunalités, et les élus unanimes ont voté contre ça, ce qui va dans le sens de ce que vous dites, de dire redonner du pouvoir aux mairies et aux communes.
Moi je pense que si des regroupements étaient nécessaires, des regroupements techniques, je pense que c'était indispensable. Vous avez dit tout à l'heure que je suis agriculteur, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à d'autres antennes, on ne va pas apprendre aux agriculteurs le regroupement, c'est eux qui l'ont inventé. Après la guerre, on a créé des coopératives. Pourquoi ? Parce qu'à plusieurs, on avait plus de production, on la valorisait mieux, on pouvait se payer un technicien pour gérer tout ça. Bon. Ça, l'idée de départ, elle est bonne. Ce qui est mauvais, c'est le transfert du pouvoir politique. Et qu'on le veuille ou non, même si notre président fait tout ce qu'il peut pour justement pas faire d'ingérence dans les communes, et il le répète à qui veut bien l'entendre, et c'est dur à tenir cette promesse, il y a quand même un pouvoir politique qui est transféré, et donc une espèce de délitement de la démocratie, un éloignement de la prise de décision par rapport au problème.
Le président auquel vous faites allusion, c'est bien sûr Bernard-Jean-Mé Peralta, qui est le maire de Manosque et qui est le président de DLVA, donc Durance-Luberon-Verdon agglomération. Vous êtes aussi, Jean-Claude Castel, conseiller départemental. Là aussi, c'est une autre échelle au niveau du département. Vous êtes élu depuis 2 ans. Vous pouvez déjà dresser un bilan de votre mandat au niveau du département ?
Je peux dresser déjà un bilan, oui. Bon, le premier constat, c'est que je suis dans l'opposition, puisque au conseil départemental, c'est quand même politique. Gilbert Sauvent est le président de gauche, et donc nous sommes de droite, donc nous sommes dans l'opposition. Ça, c'est un constat politique, on va dire. Ensuite, je suis quand même satisfait de l'intégration que nous avons pu avoir, notamment avec les services, et même avec les élus de la majorité. Parce qu'en fait, on se rend compte que les difficultés se faisant jour un peu partout, les difficultés principales sont financières, vous l'aurez compris, qui obligent à serrer des boulons un peu partout, il n'y a plus beaucoup de place pour la bagarre stérile politico-politicienne. Donc, un conseil est toujours le bienvenu, quand il vient de quelqu'un d'éclairé. Bon, j'ai cette satisfaction d'avoir trouvé ma place. Et la déception, c'est que c'est une entité qui, malheureusement, alors qu'elle était très proche de la population, alors que le maillage territorial était très bien fait, avec les maisons techniques notamment, avec les collèges, surtout le département, pour ne citer que ces 2 exemples, c'est une entité qui est, si on continue avec la politique qu'on mène aujourd'hui, sera condamnée à disparaître.
On va développer tout ça dans un instant, bien sûr. On va quand même rappeler que les maisons du département ou l'ex-DDE, tout cela fonctionne bien. Oui. La carte de santé aussi fonctionne à peu près bien, mais là, c'est plutôt l'ARS et la région qui s'en occupent. Et puis, bien sûr, les collèges qui sont du domaine du département. Un autre dossier du département qui est extrêmement important, c'est celui des routes. Et là, probablement qu'un maire d'une commune rurale a des choses à dire, notamment à proximité de l'autoroute et de la 51.
Oui, le département a la responsabilité des routes départementales qui étaient des routes nationales et qui ont été transférées il y a quelques années maintenant. Puis pas que, parce que dans un département aussi montagneux, aussi difficile que le nôtre, on a par exemple 1235 ouvrages d'art. Et dans la région manosquine, on sait que le pont de Manosque, qui est aujourd'hui en très mauvais état, va être refait par le département. Bon, avec des aides qui viennent un peu de la région, un peu de partout, mais c'est le département qui sera maître d'œuvre de cette affaire.
Et pour une note assez salée, en fait, d'environ 10 millions d'euros au total, même plus.
Plutôt 11. On était parti à 14, petit à petit, on est arrivé à 11. C'est déjà pas mal quand même. Et donc les travaux seront étalés sur un an et demi. Et ça va commencer au mois de juillet là, de cette année.
Jean-Claude Castel, le dernier élément en ce qui concerne le département, bien sûr, c'est un élément crucial, c'est tout ce qui concerne le social. Vous êtes maire d'une petite commune, vous voyez vos administrés qui vivent dans des conditions difficiles. Combien vos administrés espèrent des pouvoirs publics et combien ils attendent de l'administration territoriale? Comment vous traduisez ça dans votre mandat de conseiller départemental?
C'est terrible parce que je vais juste citer 2 chiffres. Sur le budget 2016, l'augmentation de budget dédié au RSA au département, qui est une dépense obligatoire, c'est 2,3 millions d'euros en un an. Imaginez le nombre de gens en plus qui ont basculé dans cette précarité-là. Bon. Ensuite, au niveau mairie, moi, quand j'ai été élu en 2008, maire, on avait toujours un original qui ne payait pas la cantine, puisqu'on a une cantine communale, un restaurant scolaire. Aujourd'hui, c'est plutôt 10, 12, 15.
Et qui ne sont pas originaux parce qu'ils ont de vrais
problèmes. Ils ne sont pas originaux. Alors, je veux bien que dans la bande, il y ait 2 ou 3 coquins qui profitent d'une situation. Mais les autres, s'ils ne payent pas la cantine de leurs petits, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et ça, c'est dramatique. Et dans ce contexte, je vais voter ce soir mon budget 2017, où je vais être obligé d'augmenter les impôts, parce que mes recettes de fonctionnement ne cessent de baisser depuis quelques années. En 2013, j'avais 1100 habitants, j'avais 1,3 million de recettes de fonctionnement. En 2016, trois ans après, avec 1300 habitants, donc 18% en plus, je n'avais plus que 1 million de recettes de fonctionnement. Alors moi je veux bien, on a tenté de partout, hein, on a gratté partout, mais je suis pas magicien, quoi.
Avec les baisses de dotations de l'État,
notamment.
Les baisses de dotations
de l'État, puis pas que, quoi.
Pas que. Alors, Jean-Claude Castel, dernier élément, on l'a vu, vous êtes un élu local, bien investi dans votre commune, dans votre département, dans votre communauté d'agglomération. Vous vous présentez également pour les élections législatives et vous avez quasiment claqué la porte des Républicains pour pouvoir vous présenter. C'est pas un peu risqué ?
Oh non. Non, c'est pas risqué du tout, hein. Moi, je conditionne pas ma vie au fait de mon élection ou pas. Mais j'ai bien compris que les manœuvres d'appareil, appareil auquel j'ai appartenu pendant des années, auquel j'ai cru pendant des années, mais les manœuvres d'appareil prévalent sur l'intérêt de nos concitoyens. Et ça, c'est purement inacceptable. Moi, je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un élu atypique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je me suis présenté à une élection, puis à plusieurs, et que j'ai eu la chance d'en gagner plusieurs, et que les électeurs m'ont fait confiance, c'est pas pour un besoin personnel. Parce que bon, j'ai comme tout le monde une famille, j'ai comme tout le monde des amis, des loisirs, j'ai une très belle entreprise que je dois faire tourner, j'avais pas besoin de ça pour exister. Sauf que il faut être élu pour les gens qui vous ont élu, c'est-à-dire avec la volonté chevillée au corps de les défendre corps et âme, quoi qu'il arrive, et de se mettre toujours du côté du plus faible contre le plus fort, non pas le confort de l'inverse, quoi. Et si aujourd'hui je décide de briguer un mandat national, c'est parce que je me suis bien rendu compte que toutes les catastrophes qui nous arrivent ici dans le tissu, on va dire, le tissu de démocratie de proximité, ça vient d'en haut. C'est les lois qui sont pondues en haut qui nous obligent, nous, à nous adapter et petit à petit à être moins bons, moins efficaces et moins au service de nos populations, c'est tout.
Donc vous pensez que le maire de Corbières dans les Alpes-de-Haute-Provence peut faire changer les choses au niveau du Palais Bourbon là-haut ?
Ah ben évidemment. Si je suis là-haut, ils m'entendront, quoi.
Comme ils ont entendu, par exemple, Jean Lassalle chanter, et ce qui a sauvé ainsi une gendarmerie et aussi une entreprise de son territoire.
Je me souviens
dans le
très bien. Non, mais s'il faut en arriver là. Non, mais si vous avez des élus qui vont à Paris, qui votent tout ce qu'on leur demande de voter, qui se couchent systématiquement dès qu'il y a une menace de non-réinvestiture, mais moi j'en ai rien à foutre de l'investiture. Moi, si je vais à Paris, c'est pour défendre notre territoire des Alpes-de-Haute-Provence et notre pays qui est le plus beau du monde. Les atouts qui ont fait la grandeur de la France il y a quelques années, ils existent toujours.
On a
toujours nos façades maritimes, nos montagnes, nos plaines fertiles, on les a toujours. Comment ça se fait que nos agriculteurs se suicident ? Le général de Gaulle disait un pays ne peut pas être un grand pays s'il n'arrive pas à se nourrir. Et qui c'est qui nourrira les Français quand les paysans se seront tous suicidés ? Les Américains, par le biais de traités transatlantiques que M. Macron s'apprête à ratifier dès demain. Moi, je l'accepte pas.
Alors moi je n'accepte pas non plus qu'on puisse dire que les agriculteurs vont tous se suicider. Non, il y a des zones d'avenir en ce qui concerne l'agriculture, oui. Que ce soit le bio ou le développement durable.
Non, mais...
Et d'ailleurs la nouvelle présidente Christiane Lambert de la FNSEA, qui a succédé au regretté Xavier Belin, est en train de mettre en place tout un dispositif dans ce sens-là et qu'on va suivre avec grand intérêt. On va refermer la parenthèse nationale si vous voulez bien. Quels sont vos rapports avec Sébastien Ginet qui est le président des Républicains dans le 04 et qui est également candidat dans la même circonscription.
Ben, actuellement, des rapports, on n'en a plus. Moi, j'ai eu des rapports courtois, amicaux, paternalistes, on va dire, jusqu'au mois de novembre, décembre de cette année. Et puis, bon, ben, comme de lui parler, c'était comme parler à un mur, il y a un moment... J'ai cessé tout rapport. Vous savez, moi, je suis agriculteur. Dans mes gènes est inscrit la notion de transmission. Parce qu'un agriculteur, son plus grand plaisir, c'est quand il arrive à la fin de sa carrière, c'est de pouvoir transmettre cet outil, cette entreprise. C'est plus qu'une entreprise, une exploitation agricole. d'arriver à la transmettre à quelqu'un qui est capable de reprendre le flambeau et de suivre. Voilà. Mon père l'a fait avec moi. Moi, je suis en train de le faire avec de jeunes associés que j'ai avec moi depuis quelques années. Bon, j'aurais aimé pouvoir le faire avec en politique aussi, puisque bon, je pense que j'ai quand même une petite expérience. Des campagnes électorales, j'en ai fait quelques-unes. J'ai eu des échecs, j'ai eu des victoires. C'est en analysant ces échecs et ces victoires qu'on arrive à progresser. Bon, aujourd'hui, on est face à une génération de jeunes qui sont certes talentueux, qui sont certes passionnés, je suis le premier à le reconnaître, mais qui sont trop impatients. Il voudrait attraper à 27, 28 ans un poste d'élu important, c'est-à-dire pas commencer par nettoyer un peu la saleté avant de monter les escaliers et de choper un poste d'élu important pour pouvoir vivre de ses indemnités d'élu. Et c'est normal qu'un élu soit indemnisé, mais moi je pars du principe qu'un élu ne doit pas être dépendant de ses indemnités pour vivre, parce que sinon il se couche quand on le menace de lui enlever ses indemnités.
Et en plus de ça, il ne connaît pas le monde du travail, ben ce qui ça... est quand même une mauvaise chose. Jean-Claude Castel, dernier élément, est un peu plus compliqué, évidemment. Vos rapports avec le Front National, on sait que par le passé, vous avez apporté un parrainage à Marine Le Pen. Vous ne l'avez pas fait cette année, puisque vous avez parrainé François Fillon.
Non, non.
Vous n'avez pas parrainé François Fillon ?
Je n'ai parrainé personne.
Vous n'avez parrainé personne ?
Non.
Très bien, autant pour moi. Vous regrettez ce parrainage à Marine Le Pen ?
Ah, pas du tout.
Vous le referiez ?
Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de le faire, puisque aujourd'hui, le Front National a des élus qui sont là pour le faire. Mais à une époque, moi, je m'étais posé la question de dire comment un parti qui, d'après les sondages, représente 20% d'intention de vote, comment peut-on écarter ces gens de l'accession à la présentation à une élection pour de simples problèmes administratifs ? Bon, quand un maire donne son parrainage... Ce n'est en aucun cas un soutien. C'est juste que il acquiesce que ces gens-là ont les capacités à se présenter. Voilà.
Ça veut dire aussi que peut-être les électeurs du Front National vous intéressent ?
Ah, je ne sais pas qui ils n'intéressent pas. Moi, tous les électeurs m'intéressent. Surtout aujourd'hui, je suis libre comme l'air. Les partis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense sincèrement, je pense que c'est terminé, regardez. En 2012, il y avait deux finalistes à l'élection législative dans notre circonscription. Le premier, c'était Christophe Castaner, qui à l'époque était vice-président de la région, maire de Fort-Calquier, avec une étiquette PS. Il s'était présenté sous les couleurs PS dans la suite de la vague rose de l'élection de François Hollande. Moi, j'étais à l'époque que le petit maire de Corbières, pratiquement inconnu dans le département, et je m'étais présenté face à lui avec l'étiquette LR. Et aujourd'hui... Vous retrouvez les deux mêmes personnes, l'un, on va dire, étiqueté à gauche, l'autre étiqueté à droite, qui se représentent sans leur parti. Ça veut dire, c'est un symbole quand même, ça veut dire que on a tous compris que c'est pas ça que les Français veulent. Les Français veulent des hommes qui n'aient pas les pieds et les poings liés et qui soient capables de leur apporter des solutions. Voilà ce que j'espère faire.
On a compris qu'effectivement, les repères qui ont joué jusqu'à présent ne jouent plus et que aussi bien à gauche qu'à droite, il y a des murs qui sont en train de tomber et l'électorat, de manière très générale, en est complètement désappointé. Comment vous allez faire pour mobiliser les abstentionnistes, Jean-Claude Castel ?
C'est exactement ce que vous venez de dire. Moi, je rencontre tous les jours sur le terrain des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais que doit-on faire ?» Que doit-on faire ? Des gens qui ont 40-50 ans, qui en sont à leur 20e scrutin, ne savent plus à quel sens se vouer, si on peut dire. Quoi. Et alors, les barrières tombent, oui, mais il faut quand même garder une certaine cohérence. Vous savez, quand vous mélangez de l'huile et de l'eau, elles se mélangent. Mais dès que vous posez la bouteille, dans la minute qui suit, elle se sépare de nouveau. Alors il y a des gens qui veulent faire croire qu'ils sont amis avec tout le monde et qui vont prendre tout le monde avec eux et qu'avec ça, ça va être guinguette et on va gouverner la France. C'est pas possible. Parce que on a des gènes quand même. Si on peut comprendre des choses, si on peut assouplir certains angles, et c'est nécessaire aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, par rapport aux difficultés générales qui sont plus fortes que nous, plus grandes que nous, on peut pas quand même faire n'importe quoi.
On voit bien à qui vous avez fait allusion, Jean-Claude Castel. Merci encore d'avoir été mon invité, puis continuez à développer votre village, qui est un village magnifique, Corbières, dans les Alpes de Haute-Provence.